Éternel Dieu de gloire, je voudrais placer chacun devant toi encore ce matin. Ô Père, que loin de redescendre, que par cette prédication nous montions encore sur ta montagne. Viens par ton esprit ce matin, Seigneur, au milieu de nous. Place chacun devant toi. Et comme tu as commencé à nous sanctifier, sanctifie-nous par ta parole, ô Éternel. Sanctifie-nous par ta parole, ô Éternel. Viens faire œuvre par ton esprit, ô Éternel, au milieu de nous. Merci, Père de gloire. Merci, Père de gloire, pour Jésus. Merci pour ce Messie que nous adorons ce matin. Merci, Père de gloire. Gloire à toi ce matin. Louange à ton Saint-Nom. Que tu sois magnifié, que tu sois honoré, que tu sois exalté, que tu sois connu. Que celui qui ne te connaît pas ce matin perçoive quelque chose de toi, parce que tu es là, parce que ton esprit est là. Au-delà des chants, tu es là, Seigneur. Viens ouvrir les portes qui doivent être ouvertes dans les cœurs. Tu es là ce matin, Seigneur. Viens par ton esprit. Viens libérer tes dons dans ton église. Viens libérer ta puissance, Seigneur. Viens libérer chacun, Seigneur. Libère ton peuple, Père. Nous ne pouvons pas être une église minable devant ce monde qui sent le monde, qui connaît le monde et qui ne connaît pas ton ciel, qui ne connaît pas le Messie, qui ne connaît pas ton trône, qui ne connaît pas ta gloire, qui ne te connaît pas réellement. Fils de David, viens ce matin. Viens ce matin dans les cœurs. Viens faire ton œuvre. On vient dans les entrailles de ces bien-aimés et qu'ils connaissent le lieu saint, qu'ils connaissent le lieu secret, qu'ils connaissent la souffrance de Christ, alors la gloire de Christ. Oh merci Seigneur de faire ton œuvre ce matin. Oh merci Seigneur de faire ton œuvre ce matin. Oh merci Père de faire que tous les dieux que nous sommes tombent devant le Dieu que tu es. Que nous tous qui pouvons lire des choses, nous commencions à écrire l'histoire de cette région. Fais ton œuvre, ô Seigneur. Merci, Père, de placer maintenant chacun devant toi pour entendre ta parole. Tu n'es pas un Dieu mort, oui. Tu es ce Dieu vivant. Tu es ce même Dieu qu'Abraham a entendu. Tu es ce même Dieu qu'Isaac a entendu. Tu es ce même Dieu de Jacob, ce Dieu de Bethel. Tu es ce Dieu des prophètes. Tu es le Dieu de notre Seigneur et Messie Jésus. Tu es le Dieu des apôtres. Nous ne voulons pas adorer un autre Dieu que toi. Toi le Dieu tout-puissant. Toi le Dieu trois fois saint. Oh merci Père. Utilisez cette prédication pour faire connaître quelque chose de toi ce matin. Oh Éternel notre Dieu. Ton nom soit sanctifié. Que ton nom, soit sanctifié ce matin. Et nous parler du trône. Avec toi, je plaide, Éternel. À ce moment, nous prions. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui posait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises. Tu les brises comme à la journée de Madian. Ô Père, Dieu de gloire, que cette parole qui a été prophétiquement reçue il y a bientôt 3 ans maintenant commence à s'accomplir au milieu de nous. Qu'elle commence à s'accomplir au milieu de nous. Et fais en sorte, Père, que nous puissions être ces Gédéons, que nous puissions être ces hommes et ces femmes qui chauffardent dans une main et flambeaux dans l'autre. Sois ce petit gâteau de pain d'orge comme tu l'avais montré à Gédéon, qui roule et qui roule et qui roule et qui renversera et mettra sans dessus dessous la tente des Madianites. L'Éternel dit à Gédéon, « Je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Le peuple d'Israël était oppressé. Pourquoi il était oppressé? Parce qu'il s'était éloigné de son Dieu. Alors l'ennemi, le péché, avait pouvoir sur leur âme. Et parce qu'il avait pouvoir sur leur âme, il avait pouvoir sur le peuple. C'est pourquoi Dieu est venu parler à Gédéon. Quand il battait le blé caché des Madianites, oppressoir, et non pas sur une aire de battage, parce que les Madianites les oppressaient. Et ils devaient se cacher, bien-aimés. Ils devaient se cacher pour récolter le peu qu'ils pouvaient encore recevoir de Dieu. L'Éternel est venu parler à Gédéon. Et Gédéon a vu quelque chose de Dieu. Et Gédéon a connu quelque chose de Dieu. Alors comme Ésaïe, qui a donné cette prophétie que je viens de vous lire tout à l'heure, Gédéon a dit, malheur à moi, car j'ai vu quelque chose du roi de gloire. Oh, combien nous avons besoin de voir quelque chose du roi de gloire, pour que comme Gédéon alors, nous puissions abattre l'autel de nos pères, cet autel de Baal, cet autel qui sied encore dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies, dans toutes les assemblées où Dieu ne règne pas. Parce que si Dieu ne règne pas, si Dieu n'est pas réellement à l'œuvre, c'est que Baal règne, c'est que l'homme règne, c'est que cette parole terrible que le serpent avait dit à Ève, en la séduisant, vous serez comme des dieux. C'est une parole qui s'est puissamment accomplie et qui arrive à son comble aujourd'hui. L'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, la marque de la bête et tous ces mystères que les docteurs, les 10 docteurs évangéliques, essayent de percevoir comme des événements extérieurs, sont des mystères que le peuple de Dieu ne perçoit pas. Parce qu'il est trop dans la chair. Parce que ce monde est trop puissant. Parce que l'iniquité arrive à son comble. Parce que nous vivons ces temps de Noé. Parce que Jésus nous a prévenus que nous serons surpris. Oh, si nous pouvions entendre ce qu'a entendu Gédéon. Si nous pouvions voir ce qu'a vu Gédéon, alors nous pourrions voir tous nos autels, tout l'héritage de nos pères, toute la puissance de notre chair. Comme le diable s'amuse encore avec l'Église du Dieu Tout-Puissant et l'empêche de laisser le Père être révélé l'empêche de porter le témoignage du crucifié, du ressuscité. Nous l'empêchons. Je l'empêche. Aussi comme Gédéon, nous pouvions percevoir quelque chose de Dieu, entendre quelque chose de Dieu, savoir quelque chose de Dieu, connaître réellement quelque chose de Dieu. Alors ces autels tomberont les uns après les autres. Et alors, comme pour Gédéon, faible et petit nombre que nous serons, le chauffard retentira dans nos cœurs. Et nous ferons retentir la trompette et le chauffard véritable de Dieu. Alors, bien-aimés, Dieu donnera de véritables visions. Dieu donnera de véritables songes. Et même si cette armée de Madian qui nous oppresse, et plus tu t'approches de Dieu, plus tu perçois l'oppression et l'inconscience du peuple de Dieu face à un diable dont l'Apocalypse nous révèle « Malheur à toi, terre !» Car le diable sait que ses jours sont comptés. Et si Jean-Baptiste crie, le diable crie, et plus subtilement, plus insidieusement, plus malicieusement qu'une parole de vérité qui permet de mettre chacun devant ses responsabilités. Le diable ne nous met pas devant nos responsabilités. Il les dilue, il nous séduit et il fait de nous un peuple confus alors que le Seigneur est proche. Mais si nous nous approchons de Dieu ensemble, alors je crois que nous pourrons voir, que nous pourrons entendre, que nous pourrons savoir. Et comme Dieu l'a montré à Gédéon, il nous montrera que nous pouvons être ce petit gâteau de pain d'orge assemblé, qui s'aime, qui adore Dieu, le Créateur, et plus en rien la créature, mais seul celui qui est béni éternellement. Et alors nous pourrons rouler. Et cette tente, aussi grande paraît-elle, aussi subtile et puissante est-elle, Dieu se choisira ce peuple qui pourra la renverser. Qui se lèvera et marchera pour celui qui vient? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ce matin, j'aimerais vous dire quelques mots sur cette loi et sur ce témoignage. À la loi. La loi en hébreu, on ne l'aperçoit pas du tout comme on l'aperçoit en particulier dans le monde évangélique qui n'est plus sous la loi mais qui est sous la grâce et qui parfois a permis de pécher ou de vivre dans la chair. La loi, la Torah en hébreu, cela veut dire viser un but pour l'atteindre. Voilà le cœur de ce que veut dire la Torah. Viser un but pour l'atteindre. Dans le mot Torah, vous avez la racine que vous retrouvez aussi dans le mot Moré, la pluie. La Torah, c'est la visitation de Dieu. La Torah, c'est l'instruction de Dieu. La Torah, c'est l'enseignement de Dieu. À la Torah, bien-aimés, nous avons besoin de revenir à la Torah. Nous avons besoin de percevoir un but pour l'atteindre. Et percevoir ce but pour l'atteindre par une visitation et une instruction qui vient de Dieu. Alors, nous pourrons avoir un témoignage et nous pourrons prétendre à ce que ce peuple voit l'aurore, voit cette lumière briller. Pour cela, bien-aimés, j'aimerais en toute simplicité vous dire quelque chose qui a fait de moi ce matin un sacrificateur et un serviteur qui a pleuré à chaudes larmes, avec un cœur brisé, à genoux devant ce Dieu saint, pour vous, bien-aimés, entre le portique et l'autel, comme le dira le prophète Joël. Oh, j'aimerais vous dire et que vous compreniez, que nous puissions tous comprendre. Nous étions créés pour être avec Dieu. Nous étions faits pour l'Éden. Nous étions faits pour la vie éternelle. Nous étions faits pour le bonheur. Nous étions faits pour la félicité. Nous étions faits pour l'amour. Nous étions faits pour être éternels. nous étions faits pour ne pas avoir à nous pardonner les uns les autres, parce que nous étions ces êtres bénis de Dieu, en pleine communion avec Dieu, des êtres libres qui n'avaient qu'un seul sens à leur vie, jouir de sa gloire et l'adorer, multiplier comme le Père l'avait dit, multiplier et remplir la terre et manger de tout dans cet Éden bien-aimé. C'était la perfection merveilleuse de Dieu. Il n'y avait point d'angoisse, il n'y avait point de pleurs, mais il y avait la présence même de Dieu. Nous étions un avec le Père. Adam et Ève étaient un, l'un avec l'autre. Méditez comme Adam s'était crié quand Ève est venue pour qu'ils ne fassent un, qu'ils marchent ensemble en adorant Dieu. Et nous sommes devenus comme des dieux. Nous sommes devenus des dieux. Nous qui étions des créatures mues par cet esprit d'adoration, d'amour et de tous ces termes qui ne sont peut-être même pas permis d'exprimer pour ceux qui connaissent le ciel, pour ceux qui connaissent le trône, pour ceux qui peuvent percevoir celui qui est assis, pour ceux qui ont vu quelque chose de cet agneau de Dieu. Nous étions faits pour sa gloire, mais nous avons désobéi, nous avons chuté. Et nous, et la création tout entière, nous avons été coupés de ce pourquoi nous étions faits. Et nous n'étions faits que pour cela. Nous avons été coupés de ce règne de Dieu où nous aurions trouvé tout ce à quoi nous penserions aspirer ici-bas et qui nous décevra. Nous étions faits pour Dieu. Point. C'est tout. Pour l'adorer. 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 Et jouir de sa gloire, de son amour qu'il a voulu répandre sur nous en nous créant. En nous créant. Pour se mouvoir en nous. Pour que nous soyons en communion avec lui. La chute, c'est quelque chose d'absolument terrible. C'est un fondement que nous devons absolument comprendre. Nous sommes des êtres déchus. Cette terre est dans la corruption. Nous ne sommes pas faits pour cette terre. Nous ne sommes pas faits pour cette vie présente. Nous sommes déchus. Cette terre est corrompue. Aussi bons les arbres soient-ils, ils se flétrissent et ils meurent. Aussi bons soyons-nous, nous nous flétrissons et nous mourons. Aussi bon soit un enfant, nous devons lui apprendre à dire la vérité et non pas à mentir. Parce qu'il mentira de lui-même. Nous sommes dans la déchéance, bien-aimés. Et nous devons percevoir cela de manière claire, nette et précise. Autant j'étais fait pour sa gloire et pour l'adorer, mais j'ai chuté. Cette création a chuté avec moi. Alors dans son amour, Dieu est venu, après avoir préparé son salut pendant des siècles, au travers du peuple d'Israël, Dieu a donné sa Torah. Dieu a voulu faire comprendre le but. Et Dieu nous a visités, et Dieu nous a enseignés, et Dieu nous a rachetés en Jésus-Christ. Alors bien-aimé, si tu étais fait pour un seul but, qui était d'adorer Dieu, et que tu comprends réellement ce tikkun olam, comme on dit en hébreu, ce fait que Dieu veut réparer la brisure de ce monde. Quand l'apôtre Pierre parle du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par les prophètes des temps anciens, Jésus n'est pas là que pour que nos péchés soient pardonnés. Jésus est là pour nous réconcilier avec le Père. Et Jésus rassemble ses élus pour revenir et réconcilier ce monde avec lui-même. Réparer cette brisure, réparer cette déchéance et que nous rentrions à nouveau dans ce règne. Que cela soit clair. Alors, si cela est clair, tu vas pouvoir dire comme Paul. Qui peut dire comme Paul? Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. J'aimerais que Dieu puisse nous faire comprendre ça ce matin. Si c'est pour cette vie seulement, disait l'apôtre Paul, qui avait vu le Seigneur de gloire, si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Qui peut dire ça? Celui qui peut dire ça, c'est celui qui a compris qu'il était fait pour la gloire, qu'il a été séparé de cette gloire, qu'il a été racheté par le Messie, que le Messie est mort, ressuscité pour lui, qu'il est monté dans sa gloire, qu'il est la tête, et si je suis racheté, si je porte le nom véritable de chrétien, je suis son corps. Il est la tête, je suis son corps, et le seul sens de ma vie, c'est de le servir. Et il n'y en a pas d'autre, bien-aimé. Et je pleurais, brisé, profondément devant Dieu, parce que Dieu me montrait, oh combien, bien-aimé, le peuple chrétien ne se rend pas compte qu'il n'est pas fait pour cette terre, qu'il n'est pas fait pour ce monde. Et encore nombre de chrétiens se servent encore de Dieu. Dieu qu'ils sont, se servent de Dieu pour être bénis, se servent de Dieu pour être joyeux, se servent de Dieu pour être heureux. Nous sommes les plus malheureux des hommes. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance en Christ, si nous sommes rachetés par le Seigneur, si vous comprenez qu'il est mort, ressuscité, et qu'il est maintenant, il est là où je vous parle, à la droite de la majesté divine, et qu'il est notre tête, et que si vous avez été rachetés, le seul sens de votre vie, parce que ce monde est déchu, parce que ce monde va passer, parce que vous n'êtes pas fait pour cette terre, parce que vous êtes des témoins, lisez Hébreux 11, méditez sur Hébreux 11, vous ressusciterez avec ces hommes ou sans ces hommes. Sommes-nous ces hommes? Sommes-nous ces femmes? Sommes-nous ces Barak, ces Jephté? Sommes-nous dans la lignée de ces hommes et de ces femmes de Dieu? Ces hommes, ils avaient compris ce qu'était la foi. Ils avaient compris qu'ils étaient des pèlerins sur cette terre. Ils avaient compris qu'ils étaient de passage. Ils ne marchaient pas pour ce monde. Ils ne marchaient pas pour la joie de ce monde. Ils avaient compris que ce monde n'était pas digne d'eux, bien-aimés. Ce monde n'est pas digne du Seigneur, sinon d'être racheté. Oui, il a tant aimé le monde, mais pour verser son sang et pour le racheter, pour que nous rentrions tout à nouveau dans ce règne. Quand nous avons été chassés d'Éden, deux chérubins ont été postés pour que plus personne ne puisse y rentrer. Ces deux mêmes chérubins, ils étaient sur ce rideau qui a été déchiré lors de la mort de Christ. Alors oui, nous avons accès auprès du Père. Oui, nous pouvons avoir ces arts du royaume. Mais ces arts, bien-aimés, ces arts, bien-aimés, il n'y a qu'un seul but dans le cœur du Père. Dans le cœur d'un Père qui souffre beaucoup plus que ce que l'on pense, que ce que l'on croit sur l'état de nos cœurs, sur l'état de l'Église. Un Père qui est venu lui-même en Jésus-Christ, bafoué, flagellé, moqué. On a craché sur le Fils de Dieu, bien-aimé. On s'est moqué de lui. Lui qui tient la terre dans sa main. Lui qui tient tout dans sa main. Lui qui a tout créé. Il s'est laissé moquer par les hommes. Ah, descends de ta croix si tu es bien le Messie. Et pensez-vous qu'il a fait ça, que cela lui a coûté aussi cher pour que nous soyons heureux sur cette terre? Le cœur de Dieu saigne, bien-aimé. Le cœur de Dieu saigne, bien-aimé. De voir des chrétiens qui vivent encore pour eux-mêmes et non pas pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. De voir des chrétiens en qui cet amour et cette vision de la croix n'a pas fait réellement son œuvre. Des chrétiens qui ne sont pas pressés, des chrétiens qui ne comprennent pas que cette terre et tous les gens qui vivent sur cette face de la terre, s'ils n'ont pas le Fils, ils n'ont pas la vie. Comment pourrais-je être heureux d'avoir le Fils alors que des millions et des milliards de personnes n'ont pas le Fils et que ce Fils a saigné et a versé son sang pour eux? Que ferais-je de ma vie? Que ferais-je de ma vie? Nous sommes une Église inconsciente, bien-aimés. Inconsciente. Nous sommes inconscients parce que le péché de ce monde nous a parfaitement endormis. Et nous avons besoin de revenir à la Torah pour avoir une vision claire de quel est le but de Dieu en Jésus-Christ pour nous. En Éden, nous étions faits pour multiplier et pour remplir la terre. nous qui sommes sur cette terre, rachetés par le sang de Christ, nous devrions avoir, si nous comprenons vraiment le salut, la vision que nous sommes faits pour être des réconciliateurs. Nous sommes faits pour sauver. Nous sommes faits pour être le corps de Christ. Jésus est venu 3 ans, plus longtemps, mais il a œuvré 3 ans dans le ministère. Quel était le sens de la vie de Jésus ? Je me réjouis pour Isaac et pour Marianne. Ô combien je veux les bénir, eux qui vont se marier. Ô combien je veux prier que la croix de Christ soit plantée au plus profond de leur couple, pour que leurs enfants deviennent des saints de Dieu. Mais Jésus ne s'est pas marié. Jésus n'a pas fait d'enfants. Jésus ne s'est pas construit une maison. Jésus n'avait pas de place où reposer la tête. Jésus disait, laisse les morts enterrer leurs morts, viens avec moi pour publier le royaume de Dieu. Jésus disait, laisse ton père, ta mère, c'est ceux qui font la volonté de Dieu que tu vas nommer comme tel. Jésus disait aux fils de Zébédée de les suivre, ils laissaient leur barque et leur père, et ils suivaient le maître. Et Jésus a fait l'œuvre du ministère. Et il nous a laissé ce témoignage, et il n'a pas demandé que tout le monde soit sauvé, il a demandé que nous allions prêcher la bonne nouvelle pour que le monde soit sauvé, mais pour faire des disciples. J'aimerais vous encourager cette semaine à prendre une Bible et à prendre le mot disciple dans une Bible. Une concordance. Vous savez ce que c'est une concordance ? Vous prenez le mot disciple et je vous mets au défi de lire tous les passages qui ont trait au mot disciple et de vous poser la question, suis-je un disciple de Jésus-Christ ? On n'ose plus prêcher ce que Jésus entend par disciple. Si nous voulons une aurore pour le peuple, nous sommes appelés à être des disciples de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à comprendre profondément que rachetés, nous sommes membres de son corps. Un Dieu qui nous a créés, mais à cause du péché, nous avons été conçus dans le péché. Mais un Dieu qui nous a rachetés et qui nous rachète pour un but. Est-ce que ce but est clair ? Est-ce que tu as le bon viseur de Dieu ? Avant de savoir quel est ton appel, est-ce que déjà cette base est claire, nette et précise ? Si tu es chrétien, tu es le corps de Christ, Jésus est la tête. Ce corps, c'est un organisme vivant qui est en marche et qui n'a qu'un seul but, sauver le plus grand nombre avant qu'il vienne. Et il vient bientôt. Et d'autant plus pour notre génération. D'autant plus pour notre génération. Voici que ce message s'adresse. Parce que le Seigneur est proche. Parce qu'en 67, Jérusalem est redevenue la capitale d'Israël. Et Jésus avait dit que Jérusalem serait foulée aux pieds par les nations. Et qu'alors, lorsque Jérusalem redeviendrait ce lieu, et que le peuple d'Israël serait ramené sur sa terre, alors viendrait la fin. Pendant des siècles, des chrétiens réveillés, des chrétiens qui avaient une communion avec Dieu, pouvaient dire par le Saint-Esprit, Maranatha, parce qu'ils étaient dans cette vision que le Seigneur revenait et que toute leur vie allait avoir une dynamique de service et ils allaient tout donner parce que le Seigneur venait. Dès les premiers siècles, vous pouvez lire dans les Épîtres, qu'ils marchaient et qu'ils vivaient dans la proximité de la venue du Seigneur. Parce que ces gens avaient bien compris que ce monde était déchu, qu'ils n'avaient rien à attendre de ce monde. C'est pourquoi les apôtres demandaient « Quand est-ce que tu restaureras la royauté en Israël ?» Cette royauté davidique, cette royauté messianique, cette réparation de cette brisure du monde. Nous n'en avons que faire de vivre sur cette terre. On veut rentrer dans ton règne. C'est pour ça qu'on est fait. Et si on fait des enfants, c'est pour les planter dans le règne de Dieu, bien-aimé. Nous sommes faits pour son règne. Mais aujourd'hui, tout est devant nos yeux. Et le Seigneur revient bientôt. Alors, ô combien plus si les premiers chrétiens avaient compris ces choses. Parfois, on croit qu'il y avait une grande puissance. Oui, il y avait certainement une grande puissance, mais il y avait surtout un viseur bien net, une Torah bien claire, Nous sommes séparés de Dieu, nous sommes déchus. Le Messie est venu, il nous a réconciliés, il nous a donné son Saint-Esprit. On vend tout, on lâche tout, ou si je travaille, tout est pour son œuvre. Le seul sens de ma vie, c'est son règne. Et son règne vient bientôt, et je dois le préparer. Alors, nous pourrons dire, si c'est pour cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce qu'on va tout donner. Parce qu'on va transpirer. Parce qu'on va pas dormir comme on voudrait. Parce qu'on va se laisser briser. Et pas un petit peu. On va pas céder ceci ou cela. Mais on va tout lui céder. On va devenir des disciples. Alors il pourra faire son œuvre en nous. Ma sœur Évangeline me disait en toute simplicité, et je vous donnerai ce petit témoignage. Oh, je suis en train de me rendre compte de beaucoup de choses depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines. J'ai crié, j'ai appelé Dieu, j'ai voulu des choses et rien ne se passait. Et là, je perçois que quelque chose est en train de se passer. Et des choses que je croyais percevoir et comprendre, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, c'est une dimension tout autre. Elle me donnait cet exemple des meringues. Quand vous voulez faire des meringues, s'il y a un minimum de jaune dans le blanc de l'œuf, vous pouvez battre, battre et rebattre. Vous ne verrez jamais de meringue. Le blanc ne montera jamais. Et vous pouvez battre et battre encore. Le blanc ne montera jamais. Et nous sommes ce peuple, comme la Torah nous avait proscrit de le faire, qui a un habit cousu de deux fils. Notre habit est fait de deux fils. Et nous sommes dans la confusion. Et nous avons besoin de laisser Dieu faire cette séparation en nous, entre le jaune et le blanc, entre la chair et l'esprit, entre le monde et le règne de Dieu. Si cette œuvre commence à se faire, alors je commence à voir, alors je commence à percevoir l'autel de Dieu, mais aussi l'autel de Baal. Je ne peux pas détruire dans ma vie ce que je ne vois pas. Puissions-nous être un peuple qui se met en marche, qui se laisse briser par l'Éternel, qui se laisse sanctifier, pour que, comme Évangeline me le disait, nous ne croyons pas que les verts pâturages soient quelque chose pour nous, que les verts pâturages soient de la nourriture, que les verts pâturages soient quelque chose qui nous apporte finalement même à la chair. Le pâturage, c'est la présence de Dieu. C'est le règne de Dieu. On n'ira pas au paradis, bien-aimés. On ira dans le règne de Dieu. Le règne messianique et l'éternité, c'est le règne de Dieu. C'est l'adoration de Dieu. C'est pas « je suis sauvé, j'ai sauvé ma peau ». Non, ta peau, elle a été sauvée en étant clouée à la croix. Et ton esprit et ton corps ressuscités rentrera dans le règne de Dieu si tu es prêt à laisser ta peau, bien-aimé. Si on veut échapper à l'enfer pour aller au paradis, nous aurons de drôles de surprises, bien-aimé. Si nous n'avons pas corps, âme et esprit cette claire vision que notre vie est faite pour le service et pour l'adoration, pourquoi tout à coup, quand nous arriverons auprès de Dieu, nous l'adorerons sans fin? Comment cela se fait-il que beaucoup de chrétiens croient au règne de Dieu, au paradis, mais ne le vivent pas, ne l'ont pas compris? On comprend ce qui va dans notre sens, mais pas dans le sens de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu cherche des sacrificateurs et des serviteurs qui pleurent entre le portique et l'autel, qui déchirent leur cœur et non leurs vêtements, pour que cette lumière par laquelle nous voyons la lumière vienne sur le peuple et qu'il comprenne quel est le but de Dieu. Faire de nous tous ici présents, en tout cas si nous nous donnons le nom de chrétiens, son corps, son corps. Et que nous offrions, comme Jésus, selon nos dons, selon nos appels, jusqu'à ce qu'il vienne. Combien mes larmes étaient profondes, et oh combien je suis triste que si j'avais pu vous faire venir dans cette chambre pendant cette nuit. Oh, si vous aviez pu venir avec moi, bien-aimé. Si vous aviez pu venir avec moi, mais allez-y, bien-aimé. Allez-y devant le trône de Dieu. Allez-y devant votre Créateur, bien-aimé. Allez-y devant votre Seigneur. et déchirez tout votre être et connaissez ce Seigneur. Connaissez-le. Soyez ces Josué, fils de Noun, qui demeurait dans le tabernacle. Alors même que Moïse, qui parlait avec Dieu, sortait, il demeurait. Comment Josué, comment Caleb n'ont pas eu peur du peuple? Comment Josué a pu dire « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel » Pourquoi Josué a dit à toutes ces personnes que nous pourrions dire aujourd'hui, des chrétiens, des Israélites, qui disaient « Oui, nous servirons l'Éternel, nous avons pour Père le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. » Pourquoi Josué leur disait « Non, non, vous le dites, mais ce n'est pas vrai. Vous ne savez pas qu'il est saint, vous ne savez pas qu'il est jaloux. » Finalement, il leur disait « Vous ne le connaissez pas, vous faites profession de le connaître. » Mais vous n'aurez pas la force de le servir. Parce que Josué le connaissait. Et mon peuple périt faute de connaissance. Oh, la doctrine est quelque chose d'important. Et ce n'est pas avec de la doctrine que nous saurons, que nous connaîtrons le Fils de Dieu véritablement tel qu'il est. Et qu'il imprimera son témoignage en nous. Si nous voulons qu'il se passe quelque chose, nous avons besoin de percevoir qu'une église, un corps, c'est quelque chose qui est suscité par Dieu. La Torah, c'est la visitation, l'instruction qui vient du ciel. Une église, elle doit être suscitée par le ciel. Nous avons besoin de l'autel de Dieu. Si nous voulons être un seul homme, comme je vous l'ai lu, l'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Si nous voulons être cet un seul homme, nous avons besoin d'être suscités par Dieu lui-même. Que le fondement soit Dieu lui-même. L'Église, c'est le corps de Christ, bien-aimé. L'Église, c'est une mission. L'Église, c'est un dynamisme. L'Église, c'est un organisme vivant. Qui ne se limite pas, bien sûr on le dit vite ça, à un bâtiment, même à une église ou à une dénomination. L'église véritable, c'est le Messie. L'église véritable, c'est Jésus. Et chacun a quelque chose dans cette église. Et ça c'est surnaturel, bien aimé. Ça c'est que le Saint-Esprit qui peut le faire. Est-ce qu'on va pouvoir être cette église ensemble, bien aimé? Est-ce que chacun va rentrer dans la mission? Est-ce que chacun va rentrer dans sa vocation? Est-ce que chacun va percevoir ce viseur et va être prêt à lâcher tout ce qu'il est pour laisser Jésus régner? Nous ne pourrons jamais être un et encore moins travailler ensemble si nous venons chacun avec notre boutique, si nous venons chacun avec nos égos, si nous venons chacun avec tout ce qui saura nous séparer. Avec tout ce sur quoi le diable saura jouer pour nous diviser, pour nous faire du mal et pour bafouer le témoignage de celui qui a prié qu'il soit un comme nous sommes un.